France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
À la fin de cette semaine, c'est la clôture des inscriptions au concours au métier d'enseignant, premier, deuxième degré. Et chaque année, c'est pareil. On déplore un nombre de candidats toujours en baisse, surtout d'ailleurs dans certaines matières en tension, notamment les maths, et on y viendra. Une crise de recrutement qui n'est pas neuve. C'est une lente érosion. Les chiffres des candidats au concours ne sont pas communiqués encore. Mais les deux dernières années, on a perdu à peu près 1000 candidats au métier de prof. Faites le calcul sur 10 ans. Au concours pour devenir professeur des écoles, donc en primaire, il y avait 37 500 candidats en 2010. Il y en a moins de 30 000 en 2021. En cause, on en a déjà parlé ici, on ne fera pas l'économie d'y revenir, les salaires trop bas, les évolutions de carrière pas assez nettes, mais aussi la considération, la valorisation des métiers, et ça compte. Quoi d'autre? Ce qui est intéressant quand on regarde le concours des professeurs des écoles, c'est de voir que dans les académies difficiles, Créteil, et Versailles, on peine plus encore à trouver des volontaires. La promesse d'enseigner dans des zones difficiles fait reculer certains jeunes, c'est une réalité. S'il est vrai qu'il y a des motivés qui veulent vraiment apporter leur savoir-faire dans des zones d'éducation prioritaire, tout le monde n'est pas équipé pour ça, ça n'est faire injure à personne que de le dire. Résultat, le recours au contractuel est important, faute de profs certifiés et de places pourvues, et des recrutements même au concours avec des notes plus basses que c'était la règle, que ça n'était la règle il y a quelques années, donc une baisse de niveau. On verra ensemble si c'est une réalité. Les vieux professeurs, pardonnez-moi, ceux qui ont l'expérience du temps sont bien sûr les bienvenus ce soir. On aimerait beaucoup aussi entendre les jeunes, ceux qui hésitent encore à se lancer dans le métier, ceux qui vont tête baissée, très motivés, ceux qui à peine entrés sont déjà repartis. Vous êtes tous les bienvenus en tout cas, c'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Eh ben voyez, voici Caroline. Bonsoir Caroline, c'est vous la première et soyez la bienvenue.
Bonsoir, merci beaucoup.
On vous écoute.
Alors moi j'ai passé le concours de professeur des écoles, je l'ai eu en deux fois, ce qui est pas mal. Mm-hmm. Et je l'ai eu, j'ai commencé à enseigner et je suis repartie.
Et en combien de temps vous êtes repartie Caroline?
Un mois.
Un mois?
Oui, c'est court. Hein.
Ah ouais, c'est carrément court.
Mais quand
ouais.
On s'aperçoit que... Moi je vais mettre des choses au point, je suis pour l'école inclusive, je connaissais la réalité du métier, j'avais pas de rêve et de paillettes, mais c'est pire en fait. C'est-à-dire que l'école inclusive c'est bien, quand on a les moyens de mettre en œuvre l'école inclusive. Parce que tous les élèves ont à gagner d'être tous ensemble et pas de faire des classes de besoins spécifiques d'un côté et d'élèves... normaux avec énormément de guillemets de l'autre. Ouais, Mais quand le professeur des écoles, pardon, ou le professeur dans les niveaux supérieurs est seul pour gérer ça sans formation, sans moyens supplémentaires et avec des AVS qui font un travail extraordinaire mais qui ne sont ni formés ni payés, ça fait beaucoup de challenges quand même, même si on a très envie. Hein. Mais le décalage entre la parole du ministre et le droit à l'éducation pour tous et les moyens qu'on décide d'y mettre, je faisais le lien avec une amie il n'y a pas longtemps sur la prison en fait. C'est-à-dire que c'est la même chose. On met pas de moyens là, ni à l'école, ni dans la prison.
Mais
est-ce qu'il faut y voir un lien? Je ne sais pas. Mais...
Alors Caroline, un mois c'est quand même extrêmement court. Qu'est-ce que vous faites maintenant?
Totalement autre chose. J'ai la chance d'avoir soigné une dépression.
D'accord.
Je suis désolée. Voilà.
Bah vous l'avez soignée, c'est la meilleure nouvelle, ouais.
Et donc, je voudrais travailler à monter une structure pour les femmes battues sur la Gironde, parce que là aussi, il y a encore un manque de moyens.
Eh ben, écoutez, vous êtes partie dans toute autre chose, c'est le moins qu'on puisse dire. On vous remercie pour cette entrée en matière, sacrée entrée en matière de ce téléphone sonne, pour discuter et dialoguer ensemble jusqu'à 20h. Elisabeth Alain-Moreno est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire nationale SEUNSA, en charge des questions de carrière, des personnels et de la qualité de vie au travail. Corinne Ekman est avec nous également, bonsoir. Vous êtes
bonsoir.
Analyste à la direction de l'éducation de l'OCDE. Elisabeth Alain-Moreno, alors c'est sûr c'est rapide comme retour, hein, celui de Caroline, un mois c'est pas beaucoup, un mois on n'a peut-être pas le temps de se rendre compte réellement, mais c'est quand même assez intéressant de se rendre compte que ce qu'elle nous dit c'est, même si j'étais pas partie avec des rêves plein les yeux, le fracas de la réalité a été beaucoup trop puissant.
Oui, tout à fait. Et il est intéressant le témoignage de Caroline parce que déjà, elle n'est pas du tout parlé des rémunérations.
Non,
ça montre
absolument.
Bien que le manque d'attractivité de notre métier est beaucoup plus complexe qu'une question de salaire. Mmh. Et pour Et je trouve qu'elle répond aussi à la question, finalement, y a-t-il une crise de la vocation ? Parce que ce qu'elle cherche à faire, en ayant quitté l'éducation nationale, en tout cas n'ayant pas poursuivi, c'est de quand même pouvoir jouer un rôle utile au sein de la société, pour pouvoir jouer dans le parcours de l'autre. Et ce qui veut dire que c'est pas une crise de la vocation, puisque les personnes cherchent à faire la même chose, mais dans un métier où ils trouveront peut-être des conditions d'exercice plus favorables, parce qu'effectivement, on se rend assez rapidement compte, quand on rentre dans le métier, que les conditions d'exercice ne sont pas aussi favorable qu'il y a plusieurs années.
Mais ce que j'entends dans le témoignage de Caroline, Elisabeth Alain Morino, c'est aussi qui est la collègue un peu plus âgée qui peut venir lui dire voilà comment ça peut être plus facile, voilà comment ça peut évoluer, qu'est-ce qui te manque. Il manque clairement une béquille à Caroline quand elle démarre, et quand on est jeune dans un métier, quel que soit le métier qu'on fait, chez nous c'est pareil, il manque ça en fait, il manque l'aîné au-dessus. Hein.
Alors tout à fait, il y a deux éléments. Le premier, c'est le collègue plus expérimenté. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on questionne un enseignant, est-ce que vous conseilleriez votre métier ? Il répond souvent, j'aime mon métier, mais je suis pas sûre que je le conseillerais. Mm-hmm. Donc effectivement, après, aller vers l'autre pour dire... poursuis, reste tenace, et puis ça va aller mieux. C'est peut-être aussi une certitude qui a un petit peu diminué. Et le deuxième élément, c'est que il n'y a plus ces temps d'échange possibles entre pairs pour pouvoir partager les expériences. Ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup défaut dans le métier aujourd'hui.
Corinne Ekman, ça se calcule, ça, chez vous, à l'OCDE, les entrées-sorties de l'éducation nationale ? Est-ce qu'on a une vision de ça ou pas ?
Alors, on n'a pas de vision précise. Par contre, on a l'enquête Thalys qui est faite sur, justement, les enseignants. On leur pose un certain nombre de questions, et des questions, justement, est-ce qu'ils sont bien préparés à la formation pédagogique. Et c'est vrai qu'on reprend un peu, on retrouve ce que dit votre auditrice Caroline, c'est-à-dire qu'ils se sentent pas assez formés, justement, à la pédagogie. Ils connaissent bien le contenu des matières qu'ils veulent enseigner, mais 55% des enseignants disent qu'ils se sentent pas assez formés à ça par rapport à...
Ça veut dire qu'on les pousse dans le grand bain comme ça,
exactement.
Et on sait qu'ils ont pas pied, mais c'est pas grave, t'as qu'à bouger,
exactement.
Tu verras, tu nages.
Et en fait, de ce fait, et notamment dans le domaine dont parlait Caroline, sur des enfants à des besoins spécifiques...
Éducation inclusive, ouais.
Exactement. Et là encore, ils se retrouvent encore moins bien préparés à ce type de pédagogie, qui est une pédagogie où il faut être avec l'enfant. C'est une pédagogie différenciée. Donc, c'est ce manque de préparation et les mettre dans le bain comme ça. Et puis, on parlait effectivement du tutorat. Hein, tutorat, on sait très bien qu'aujourd'hui, les jeunes enseignants français ont moins de tuteurs par rapport aux autres enseignants des autres pays de l'OCDE. Donc, on est sur en gros 16% contre plus de 20% pour les autres pays
de l'OCDE. C'est ça, j'allais vous demander, on en a moins, ou est-ce que c'est vraiment une pratique courante chez la plupart de nos voisins, alors que chez nous, ça l'est pas du tout?
Alors chez nous, ça l'est beaucoup moins que chez d'autres, et c'est vrai que c'est un manque de temps. Hein, je crois que c'est ce que disait ma collègue, c'est-à-dire que c'est un manque de temps de pouvoir passer du temps avec le jeune qui arrive, alors qu'on est déjà débordé avec les élèves qu'on a à gérer, les parents, les charges administratives et autres.
Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Je vous redonnerai la parole dans un instant, Elisabeth Alain Morano. Oui. Soyez la bienvenue, Dominique. On vous écoute.
Alors moi je voulais témoigner en tant que formatrice, je suis formatrice à l'INSP sur l'Académie de Versailles, donc j'ai face à moi des étudiants qui justement vont être dans des classes, très souvent des classes difficiles, hein, dans des quartiers plutôt compliqués, et la formation que je leur donne, moi-même je suis assez déçue parce que j'arrive pas à leur donner suffisamment parce qu'on manque de temps, c'est tout à fait vrai. On manque de temps et puis on manque d'argent parce que la première chose que je leur dis, et vraiment peut-être que je peux en arrêter certains, c'est, bon, ils ont passé le concours, ce que j'ai aujourd'hui face à moi, je leur dis, mais écoutez, vous savez, si vous êtes venu pour gagner de l'argent, vous vous êtes trompé d'endroit. Parce que c'est vrai que notre métier, Bac plus 5, niveau master, eh bien, quand on commence dans le métier, on gagne 1 600 €. Et 1 600 euros, là, tout de suite, c'est vraiment pas grand-chose, surtout en région parisienne avec les loyers que nous avons et ce genre de choses. Mais en plus, la carrière ne va pas non plus galoper. Mmh. Il ne faut pas rêver. Personnellement, moi, j'étais professeure des écoles, puis j'ai passé des niveaux pour devenir formatrice. J'ai un master de formatrice depuis 2016 que j'ai passé donc en étant moi-même en formation continue. Eh bien, aujourd'hui, je gagne 2 400 euros net. Mmh. J'ai plus de 20 ans d'expérience.
Mmh. Dominique, on va parler des salaires évidemment parce que je savais bien que ça viendrait sur le tapis. Je voudrais juste que qu'on revienne avec vous juste une seconde sur ce que vous disiez avant sur la formation, surtout des élèves dont vous savez dont ils savent aussi d'ailleurs qu'ils iront dans des zones qui sont parfois des zones difficiles. Oui. Est-ce que là aussi, est-ce qu'il y a une formation spécifique? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on sent même une Allez-y.
Pardon. Je travaille dans un INSPE où mes étudiants en M2 actuellement sont à mi-temps. Ils font 3 semaines en classe face à des élèves et ils sont 3 semaines dans ma faculté. Eh bien, quand ils sont en classe, ils sont déjà face à des élèves difficiles. Ils sont déjà dans des milieux difficiles. Et il y en a qui démissionnent, en effet, comme Caroline tout à l'heure, dès le début, parce qu'ils ont déjà commencé en classe et qu'ils n'y arrivent pas, et qu'ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas imaginé que le métier, ça allait être ça. Mmh. Et on n'arrive pas à les aider. Pourquoi on n'arrive pas à les aider? Parce que on n'a pas le temps, on ne veut pas prendre le temps de les accompagner, et certains, en effet, craquent complètement, et ils démissionnent, ou ils tombent malades, ce qui n'est pas mieux, hein, bien évidemment, et ils ne restent pas, parce que c'est trop difficile.
Merci beaucoup, Dominique, vraiment, pour votre témoignage. Alors, on va parler de l'aspect salarial, vraiment, mais je voudrais, Elisabeth Allemand, et non qu'on revienne sur ce dernier point que vient d'évoquer Dominique. C'est presque une espèce de paradoxe, en fait. Moi, je trouve, quand on est jeune prof, on est envoyé dans des académies qui sont les académies les plus difficiles, parce que c'est là que beaucoup de professeurs ne veulent pas rester, parce qu'ils veulent rentrer chez eux, etc. Donc, quand on est mis dans le grand bain, on l'est dans une façon d'enseigner qui est particulièrement difficile. Est-ce qu'on n'est pas dans un terrible paradoxe, en fait? Alors, il y en a qui sont super motivés pour ça, et c'est super, et qui probablement le feront très bien, mais il y en a d'autres qui sont pas capés pour, et c'est pas grave en fait.
Oui, tout à fait. Après, c'est le jeu aussi des mobilités, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants plus anciens qui ont fait le choix d'une mobilité sur d'autres zones. Là, actuellement, bon, c'est le littoral atlantique et le littoral méditerranéen, hein, la carte forcément, parle, hein, qui attire beaucoup. Et donc, forcément, c'est le jeu des mobilités qui fait que bon, les plus anciens se dirigent vers ces zones-là et ben, le recrutement a lieu de façon plus massive sur les zones d'éducation prioritaire, notamment en ville, hein, il y a 3 villes qui sont actuellement pas mal délaissé entre l'Île-de-France, Marseille et Bordeaux, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Par contre, c'est pas forcément le poste complexe en termes d'éducation prioritaire qui va être le plus rebutant pour quelqu'un qui débute. C'est la façon, on vient de le dire, la façon dont il va être installé sur ce poste, dont il va être accompagné, le temps qu'il aura, et aussi la projection qu'il va se faire sur le métier. Là, aujourd'hui, quand on sait qu'on débute sur une zone d'éducation prioritaire, mais qu'on va y rester longtemps parce qu'après il est difficile de sortir de certains territoires, peut-être que le courage au départ n'est pas tout à fait le même, donc c'est important aussi d'évoquer cette mobilité. Et puis après, Dominique l'a dit, le temps qu'elle a besoin aujourd'hui, même sur des zones difficiles avec ses élèves, il va être encore plus amoindri avec la réforme de la formation qui vient d'être mise en place, parce que là, à partir de cette année, tous les lauréats de concours, quand ils seront détenteurs de master alors spécifique, hein, éducation et formation, vont être à temps plein. Donc c'est-à-dire que au-delà du fait d'être sur des postes difficiles, entre guillemets, ils vont être en plus sans accompagnement réel, puisqu'ils seront à temps plein. Ça, c'est la nouvelle réforme. Et j'insiste là-dessus parce que nous, on est très inquiets au niveau de l'UNSA par rapport à cette réforme, parce qu'elle va accentuer les difficultés d'attractivité de notre métier.
Je me mets à la place, Corinne Ekman, d'un jeune prof qui est sûrement très motivé, mais qui est forcément pas tout à fait à l'aise sur ses bases. C'est sa toute première année, ou deuxième, ou troisième. Donc, pas tout à fait à l'aise encore devant une classe comme certains aînés le seront après, qui se retrouvent dans des endroits, effectivement, qui sont des endroits compliqués, qui se retrouvent tout seuls. Moi, je me souviens que vous nous aviez même expliqué, je crois que c'est vous qui nous aviez expliqué la dernière fois que vous êtes venu, que dans certains certains pays, précisément, c'est l'inverse, en fait, priorité à ceux qui ont de la bouteille pour aller dans ces endroits-là et pour pouvoir former ensuite les plus jeunes.
Exactement. Donc, il y a beaucoup de pays qui sont partis sur positionner les enseignants expérimentés sur les zones d'éducation prioritaire. En France, c'est pas le cas parce qu'effectivement, avec le système de points, c'est effectivement les jeunes qui se retrouvent dans ces zones prioritaires et ils n'ont. Alors maintenant, il y a la prime qui a été rajoutée. Donc, je pense que ça, c'est une bonne chose pour motiver un petit peu les enseignants expérimentés pour aller. Mais il faut aller au-delà. Peut-être il faut donner pousser davantage incitations. Mmh. J'avais le mot en anglais. D'autres incitations justement pour les enseignants expérimentés pour aller dans cette direction parce que c'est eux qui vont pouvoir apporter la connaissance qu'ils ont de la pédagogie et pouvoir s'adapter à des situations plus complexes. Mmh. Hein, c'est vrai. Et c'est vrai que les enseignants, à part si c'est des jeunes qui sont extrêmement motivés et qui peuvent avoir un accompagnement par rapport à l'équipe enseignante tout autour, ce qui n'est pas non plus évident, même si aujourd'hui ils se retrouvent avec des classes moins chargées au niveau du CP et du CE1, mais c'est pas le cas pour les autres niveaux d'éducation. Donc, il faut vraiment prendre tout cela en compte.
Et puis, il y a eu Elisabeth Alain-Moreno dans le début de la question de Dominique, donc le salaire, et on va pas éluder cette question, bien sûr que ça joue, vous le disiez, c'est pas forcément là qu'est la vraie et première raison, mais évidemment, ça joue.
Oui, ça joue. Alors, ça dépend des territoires aussi. Ça dépend souvent des conditions d'exercice. C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on va davantage regarder les conditions d'exercice selon... plus elles sont favorables et moins peut-être on regardera la rémunération. C'est tout à fait logique. Donc là, aujourd'hui... on peut pas dire que tous les enseignants, quand on leur pose la question, vont mettre en number one la rémunération, mais il y a forcément ça fait partie des éléments qui jouent dans l'attractivité du métier.
D'ailleurs, si je peux me permettre, le salaire, quand on demande à un enseignant quels sont les facteurs motivants pour rentrer dans la profession, le salaire n'arrive pas du tout première position.
Parce qu'en général, ils savent où ils mettent les pieds, cela dit.
Exactement.
Enfin, j'allais dire, c'est pas une raison, mais ils savent où ils mettent les pieds.
Oui, effectivement, ils connaissent parfaitement l'information. Et la première raison qu'ils donnent, c'est le développement, aider au développement des enfants, c'est contribuer à la société. Donc, ça va bien au-delà du salaire des enseignants. Et ce qui est intéressant, c'est quand justement on regarde la France par rapport aux autres pays de l'OCDE, là où ils sont, où il y a une importance, un des facteurs importants, c'est la stabilité de la carrière. Donc il y a quand même une recherche de stabilité de la carrière avant le salaire.
Louis est avec nous. Bonsoir Louis.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Louis, allez-y.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Je voulais témoigner de ma situation qui est un peu particulière puisque je suis en reconversion professionnelle depuis 2 ans pour devenir donc enseignant. J'ai fait 1 an de contractuel l'année dernière pour me familiariser avec le métier, voir si ça me plaisait. Je me suis retrouvé donc dans les zones difficiles, comme certains ont dit dans votre émission. Et malgré les conditions de travail difficiles avec lesquelles je suis d'accord, le salaire, etc., j'ai été moi convaincu par ce métier. Enfin, j'ai voulu persévérer dans ce métier que j'ai vraiment adoré, et donc j'ai décidé de préparer le CAPES d'histoire-géographie cette année, pour le passer en 2022, et je me retrouve confronté à une, déjà pour commencer, à une charge de travail assez conséquente, des nouvelles épreuves et une réforme dont les contours sont un peu flous et qui est difficile à comprendre, et en plus l'impression que ce que je fais là est très différent de ce que j'ai fait en classe devant des élèves, est très différent de ce qui m'a plu dans le métier que j'ai pu exercer pendant 1 an. Donc je me retrouve dans une situation où je suis motivé, j'ai envie de faire ce métier, ça m'intéresse, malgré les difficultés dont je suis conscient. Mais j'ai l'impression que voilà, le chemin est assez difficile pour y accéder, assez incertain, en plus pour quelqu'un comme moi qui est en reconversion professionnelle et qui ne peut pas se permettre de prendre 2-3 ans pour accéder au métier. Et je trouve ça dommage, puisque j'entends qu'on manque de professeurs, voilà, qu'on manque de candidats, et voilà, il y a des gens qui ont envie de faire ce métier, mais parfois la marche est un peu haute, donc je me demande si voilà, il n'y a pas des moyens de faciliter les passerelles pour faciliter.
Surtout pour ceux qui sont effectivement des gens en période de reconversion, merci beaucoup. Louis, on dit d'ailleurs, Elisabeth Alain Moreno, que le CAPES externe est plus difficile que le CAPES interne. C'est plus difficile quand on est comme Louis, qu'on vient de l'extérieur pour passer un CAPES, que quand on est dans le cursus de ses études.
Et ça dépend des expériences souvent des personnes. Je pense pas que ce soit aussi tranché que ça. Et ça dépend aussi des disciplines.
Et alors oui, d'ailleurs, puisque Louis y était, il est prof d'histoire géo, lui, qui n'est pas une discipline en tension, en tout cas moins que certaines autres.
Oui, bien moins.
Voilà, j'ai entendu moi les maths, l'allemand.
Les lettres.
Les lettres. Oui. On s'est donné une explication à ça ou pas d'ailleurs, ou pas?
Ça fait plusieurs années que ce sont ces disciplines à chaque fois qui reviennent. Alors les maths, c'est vrai que ça a toujours été une discipline qui a été difficile, enfin, pour en termes de transmettre. C'est transmettre les maths souvent, même pour un professeur des écoles, hein, c'est pas forcément la matière à chaque fois où les collègues sont les plus à l'aise quand ils démarrent. Mais il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place ces dernières années pour essayer justement de pallier un petit peu à ces disciplines qui étaient moins attractives avec des emplois à devenir professeur. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on retombe toujours sur des déficits d'inscription au concours ou alors des collègues qui abandonnent peut-être plus que dans d'autres disciplines.
Et un biais différent pour y arriver quand on est comme Louis, qu'on est obligé de travailler parce qu'on est rentré dans la vie, etc. Ça n'existe pas, ça, du coup, du tout. Est-ce que c'est envisageable? Parce que ça vient des fois sur les discussions de trouver un biais, encore une fois, pour les gens qui se sont reconvertis et qui peuvent pas effectivement pas donner 2 ans de leur vie entière à passer un CAPES, voire plus.
Oui, alors il y a différents dispositifs pour entrer effectivement par concours pour devenir titulaire de l'éducation nationale. Et il y a donc à la fois les concours internes quand on est déjà fonctionnaire, et il y a aussi après le troisième concours quand on a une expérience dans le privé d'au moins 5 ans. Ça reste quand même très contraignant. Après, on a eu la suppression de certains concours qui donnaient accès justement à ces personnes qui étaient pas forcément qui sortaient pas d'études. Donc là, on a eu moins de postes ces dernières années qui étaient favorables pour ces parcours-là. Et puis derrière, l'accompagnement, on a une prise en compte des carrières passées aussi qui est quand même pas très favorable, qui est en train d'être révisée. C'est indispensable parce que faire table rase de des années qu'on a pu passer, qu'elles soient dans la fonction publique ou dans le secteur privé, à un moment, on peut pas démarrer avec un salaire qui est celui quand on a 45 ans avec celui qui est quelqu'un qui a 23 ans. Ça fait partie aussi des raisons des difficultés d'entrer dans le métier.
Est-ce que c'est un vrai métier de reconversion, Corinne Ekman, le métier d'enseignant?
Alors, en fait, moi, je voudrais revenir parce que par rapport à ce qu'a dit Louis, votre auditeur, il avait l'air de dire que cette préparation au CAPES était différente de ce qu'il avait pratiqué en étant enseignant. Donc, il voyait un peu qu'il y avait une inadéquation entre les deux. Et je voudrais revenir sur le fait du concours. Le concours, c'est assez spécifique à la France. Hein. D'autres pays ne fonctionnent pas. Vous êtes
très
diplômé.
Académique.
Vous êtes très exactement. Ouais. Donc, dans beaucoup de pays, vous êtes formé dès le départ aux matières que vous allez enseigner, mais aussi à la pédagogie. Après, vous avez un diplôme, et après, vous êtes enseignant. Vous n'avez pas ce phénomène de concours. Et là, ce que nous dit l'auditeur, c'est que je passe un concours, j'ai de l'expérience parce que j'ai enseigné avant, et le concours ne me semble pas approprié par rapport à ce dont j'ai besoin. Donc, je pense que c'est un message assez fort sur la façon dont aujourd'hui les...
Un concours qui a peu bougé. Par ailleurs, qui a dû bouger à peine, en tout cas qui reste, qui depuis, je ne sais pas depuis combien de temps le CAPES existe, depuis sûrement extrêmement longtemps, mais qui a toujours été ce grand moment très académique, j'imagine qu'il est encore aujourd'hui, non, Corinne Ekman?
Alors, je suis pas spécialiste des concours en France, mais en tout cas le fait d'avoir un concours, effectivement, c'est très spécifique.
Ce que je veux dire, c'est que ça bouge pas tellement. En fait,
ça bouge pas.
Cette conversation, d'autres ont dû la voir bien avant nous et plusieurs fois, mais ça bouge pas.
Et on vient sur le fait qu'aujourd'hui, on a des classes avec où il faut travailler plus spécifiquement avec des élèves, et donc il faut passer du temps pour ces jeunes enseignants pour avoir qu'on leur montre comment gérer ces classes un peu plus compliquées ou différentes. On va dire, qu'est-ce qui existait avant.
Alors je tiens quand même à ma question, est-ce que c'est un métier de reconverti, le métier d'enseignant ou pas?
Alors je pense que c'est pas si simple. Alors si on discute avec beaucoup de personnes qui veulent, qui sont motivées par ce métier-là, là peut-être que les passerelles, comme on l'a dit avant, sont assez compliquées. L'auditeur aussi a dit, c'est difficile de se former et d'avoir un autre métier en même temps pour pas. Et puis alors là, le salaire peut-être va être compliqué parce que vous avez aujourd'hui un master pour être enseignant. Ouais. Si vous avez un master, comme disait votre auditrice tout à l'heure, vous possiblement vous gagnez beaucoup plus que ce que gagne aujourd'hui un enseignant. Donc c'est vrai que...
Qu'après un master de maths, il y a des carrières qui payent plus évidemment que prof de maths. On peut comprendre aussi du coup que c'est là que sont les pénuries, notamment d'enseignants.
Hein. Et puis vous arrivez, vous n'avez pas les points nécessaires. C'est pas parce que vous avez eu 10 ans de carrière autre part que vous allez pouvoir avoir autant de points que quelqu'un qui a eu enseigné pendant 10 ans. Donc vous vous retrouvez avec un salaire moindre et qui ne met pas en valeur toute votre expérience.
Et Elisabeth Alamoreno, il y a un point sur lequel on n'a pas encore insisté vraiment, mais effectivement, il faut un master désormais. C'est assez récent, ça date de 2011, je crois, dans mes souvenirs. Ça doit être Nicolas Sarkozy, je crois. Mais peut-être que vous m'arrêterez si je me trompe.
Oui, c'est Nicolas Sarkozy.
Voilà, c'est ça, qui impose le master alors qu'une licence était, nécessaire seulement autrefois. Est-ce que ça a freiné certains accès au concours, ça, ou pas du tout?
Alors oui, disons que le fait d'allonger forcément les études, en plus, bon, ça engendre des coûts aussi d'études, hein, des coûts de parcours pour beaucoup d'étudiants. Ça a sans doute freiné à un certain moment. Après, il y a eu une mise en place d'une alternance, on en parlait tout à l'heure, avec mi-temps en école de formation et puis mi-temps sur le terrain, qui était pour nous, en tout cas, très favorable, justement, avec ces allers-retours permanents entre le terrain et puis l'échange avec les profs, les formateurs et les tuteurs. Et c'est justement ça que la réforme qui vient d'être actée pose problème, c'est que c'est un retour en arrière. On reste sur un parcours long, puisqu'il faudra les 5 années, mais par contre, à la clé, pour majorité d'entre eux, ça va être à temps plein, il n'y aura même pas l'alternance. Donc c'est ça qui est un petit peu inquiétant dans la formation qui est mise en place à ce moment. Après, c'est un métier de reconversion, sans doute que oui, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui rentrent tardivement dans cette profession. On a une moyenne d'âge à l'entrée qui s'est nettement décalée, avec des parcours qui témoignent d'expériences antérieures souvent multiples. Ça c'est vraiment criant ces derniers temps. Et puis moi je voudrais revenir sur les il a parlé des conditions d'exercice aussi. Louis, il a parlé de la charge de travail et du décalage par rapport à ce qu'il avait pu envisager. C'est vrai qu'on parle beaucoup, comme l'avait dit, de la rémunération, le fait que les postes offerts baissent, bah, c'est vrai que c'est aussi un élément qui mine l'attractivité, la mobilité, qu'elle soit géographique ou professionnelle, où c'est rapidement l'impasse quand même, quand on regarde dans le détail de ces deux axes-là. Et puis les conditions d'exercice, au-delà de ce qu'a dit Caroline, qui était tout à fait juste sur l'accueil des élèves avec certaines difficultés, le fait d'avoir des réformes éducatives successives, permanentes, sans forcément de sens derrière. Et puis, quand on parle de conditions d'exercice, les remplacements aussi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a des collègues qui disent « mais je ne m'absenterai pas ». Voilà. Tant pis, je suis malade, mais je vais parce que je sais que je ne serai pas remplacée. Et mes élèves, ce n'est pas possible. À un moment, il faut que ça avance. C'est pas possible que des collègues aient ce choix à faire.
Inès est à Montreuil. Bonsoir Inès.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, je vais aller dans le sens de tout ce qui a été dit. Moi, j'ai passé le concours en 2019 après une carrière professionnelle dans toute autre chose. Juste une chose, dans le premier degré, donc à l'école élémentaire maternelle, on passe le concours par académie. Donc, on choisit quand même notre lieu d'exercice.
Oui, absolument.
J'ai choisi 93. Et alors, je suis d'accord avec lui, le concours, c'est pas la réalité du terrain. En revanche, pour le CRTE, nos matières à l'écrit, c'est français maths.
Le CRTE,
Concours de recrutement de professeurs des écoles.
D'accord, ok.
À l'écrit, c'est français maths, et à l'oral, c'est des présentations de séquences. Donc, moi, j'ai pas trouvé ça si déconnecté de la réalité. Par contre, comme il y avait plus de postes que de candidats qui se sont présentés au concours, forcément, ça pose un problème. Et la dernière personne qui a été recrutée en 2019, elle a eu 6 sur 20 au concours. Moi, je trouve ça super inquiétant. Et juste une petite chose sur les remplacements. Je vais complètement dans le sens de ce qu'a dit votre intervenante. Moi, je suis remplaçante dans le 93. Et en fait, on est très majoritairement affecté sur des postes à l'année. C'est mon cas. Et du coup, on n'est plus disponible pour les remplacements de courte durée. Aujourd'hui, dans le 93, en tout cas dans ma circonscription, tous les remplacements sont sur des remplacements de congés longs, d'arrêt long. Il y a plus aucun remplaçant disponible pour des congés courts. Donc effectivement, les collègues se posent la question de se mettre en arrêt quand ils n'ont pas bien, parce qu'en fait, ça fait des demi-journées de classe entières perdues pour les élèves.
Merci beaucoup Inès pour ce témoignage. Alors 6 sur 20 quand on manque de profs, ça fait quand même assez mal. Et je vous pose la question parce que je me souviens très bien du rapport Villani-Torossian de 2018 qui disait notamment que si le niveau en maths était aussi faible en France, on est très très loin en Europe, c'est aussi parce que le niveau des enseignants, surtout dans ces petites classes-là, en fait, était pas suffisant dans ces matières. Donc, disons-le carrément, Elisabeth Talamoreno, en mettant les pieds dans le plat, quand on manque d'enseignants et que donc on descend la barre au concours, est-ce que ça veut dire que le risque, c'est vraiment que les niveaux baissent et parfois dangereusement?
Je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce qu'a dit Inès. Alors, il y a une distinction à faire effectivement entre le CRPE, c'est ce qu'elle a fait, et les concours du second degré qui sont encore plus disciplinaires et qui le sont devenus encore plus avec les réformes ces derniers temps, avec regret. Mais effectivement, il y a à la fois... pourquoi est-ce que nos concours ne sont pas en capacité d'attirer justement les futurs collègues qui auraient les compétences en mathématiques, puisqu'on parle des mathématiques, pour pouvoir les transmettre, parce que si ce sont justement des collègues qui passent les concours et qui auraient été plus en concurrence avec d'autres personnes qui avaient davantage les compétences en mathématiques, on n'aurait pas ces questions-là à se poser. Après, bon, c'est le jeu d'un concours, donc il y a le problème de l'attractivité qu'on retrouve. Et ensuite, il y a aussi le fait que le concours ne reflète peut-être pas réellement les besoins en termes de compétences, des compétences qu'on aura besoin après par la suite sur le parcours. Et puis à nouveau, le concours n'est pas un moment de formation, le concours est une sélection, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a tiré le son, je vais dire, des personnels qu'on a recrutés parce que les métiers n'ont pas été attractifs, ça veut dire que derrière il faut mettre en place aussi une formation, un accompagnement, et il y a des choix à faire, et à un moment, au lieu de faire une formation totalement uniforme et basée de nouveau sur des savoirs disciplinaires tous les mêmes, peut-être axer davantage là où est-ce qu'on a pu remarquer. Et ça, c'est pas le cas aujourd'hui.
Donc, c'est-à-dire attention aux lacunes, être capable de combler là
en
où on est capable d'identifier sur les territoires.
En fonction des territoires, je pense qu'il y a ce travail plus fin à faire.
Corinne Ekman, est-ce que dans les chiffres, est-ce que l'analyste que vous êtes le voit, c'est-à-dire plus on manque de professeurs, plus les niveaux sont remis en cause, ou il faut faire attention, non plus ça n'a rien à voir?
Non, je crois que sur le fait que au niveau des enseignants du primaire, il y ait moins de personnes qui ont attrait les mathématiques, c'est aussi lié souvent. Ce sont des personnes qui étaient plus avant, enfin qui étaient plutôt littéraires et qui s'engageaient vers cette formation. Donc c'est aussi lié à ça. Donc je pense qu'il y a aussi une de ces raisons.
Et cela dit, on peut avoir une très mauvaise note en maths au concours et être capable d'expliquer les fractions à des gamins.
Exactement.
Absolument.
Et c'est peut-être d'ailleurs eux qui seront les
bien. Mieux. Je partage complètement.
Exactement. Ouais. Donc effectivement, et puis là, on revient tout à fait sur ce qui était dit au départ, c'est que il faut donner les éléments pour aider justement les enseignants à former les jeunes d'aujourd'hui avec des éléments qui pour leur expliquer effectivement les fractions à partir de cubes qu'on divise et d'autres éléments qui permettent d'aider justement les enfants à acquérir ces compétences en mathématiques.
Alors, il nous reste peu de temps, mais quand même, on en a assez pour vous, Sophie. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et soyez la bienvenue.
Alors, écoutez, moi, je voulais en fait soulever la question des conditions d'enseignement dans les classes, et notamment au niveau de l'inclusion, parce que l'inclusion d'élèves en situation de handicap, parce que moi-même, je travaille en fait dans le médico-social, donc je me déplace dans les collèges, je suis orthophoniste. Voilà. D'ailleurs, au passage, je me suis fait vacciner de façon contrainte, et beaucoup de mes collègues.
Ce qui est un autre sujet, Sophie, si je peux me permettre.
Mais je voudrais juste dire qu'il y a beaucoup de malades chez les vaccinés. C'est très bien de le dire.
Ouais, c'est un autre sujet, c'est une autre émission. Sincèrement, il nous reste 3 minutes. C'est à vous de voir où vous voulez aller.
Voilà. Moi, j'ai l'impression que pour l'inclusion de ces élèves, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens dans les classes dites d'enseignement ordinaire. Les élèves en situation de handicap sont souvent scolarisés en ULIS et ont des inclusions, mais parfois les inclusions sont compliquées. Mmh. Parce qu'il n'y a pas assez d'heures d'AVS, il n'y a pas assez de... Enfin, on ne dit plus AVS d'ailleurs, mais...
Mais on comprend ce que c'est...
Pour les accompagner dans leurs inclusions.
Merci beaucoup, merci Sophie pour votre remarque. Et c'est fou, c'est qu'on a des témoignages de professeurs, Elisabeth Alain Moreno, qui nous expliquent la difficulté de leur travail. Et on sent bien que dès qu'on est dans une case un peu particulière, c'était le cas de notre auditrice Caroline tout à l'heure, tous ces problèmes-là sont décuplés d'une certaine façon.
Oui, tout à fait. Et en plus, les deux années qu'on vient de vivre avec la crise sanitaire ont mis en exergue justement ces difficultés-là, puisqu'on a bien vu que dès qu'il fallait un petit peu isoler chaque élève et ne plus permettre les inclusions, les rencontres entre les élèves en situation avec certaines difficultés et les autres, ça a accentué ces difficultés-là. Donc il y a bien nécessité à ce qu'on puisse continuer à mixer les différents publics parce que c'est ce qui permet... Et de part et d'autre, hein, aussi bien pour ceux qui n'ont pas spécialement de difficultés que ceux qui ont des difficultés particulières. Sauf que, ben, comme l'a dit Sophie, hein, on manque de... Alors là, il y a eu un recrutement supérieur quand même, ce qu'on appelle les AESH. Elle parle des AVS, mais ce sont les AESH. Mais il y a encore des conditions matérielles pour les AESH qui sont insuffisantes pour qu'elles puissent, ces personnels puissent se projeter plus longtemps sur la profession et avoir des conditions d'exercice dignes. Et puis c'est surtout, moi je reviens, sur la formation des enseignants eux-mêmes, parce que c'est ça aussi l'autre pendant.
Corinne Ekman, est-ce qu'on est tout seul en Europe ou est-ce que c'est une tendance chez chacun d'avoir parfois des difficultés de recrutement et surtout d'ailleurs dans à peu près les mêmes matières ou pas ?
Alors, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres pays, effectivement. L'Allemagne aussi fait face à des pénuries d'enseignants. D'autres pays ne font pas face. Hein. On va revenir sur la Finlande. L'Irlande sont des pays qui ont réussi à accompagner leurs enseignants et à motiver, à garder des enseignants motivés. Et si on vient, peut-être le dernier chiffre, c'est effectivement, un enseignant sur trois dit qu'il a un besoin élevé de formation à l'enseignement à des élèves à des besoins particuliers. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc c'est vraiment un besoin qui est démontré.
Et ce sera le mot de la fin. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation au téléphone sonne. Merci à tous pour vos nombreuses questions.